Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue, voici le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée avec au sommaire cette semaine le harcèlement scolaire, une sensibilisation importante, mise en lumière et reportage en Lozère à suivre. Le 12 mars prochain, c'est Quartier en Lumière à Alès et dans d'autres villes aux alentours, une soirée avec de nombreuses associations, une fois de plus, mises à l'honneur. Carole Delga, la présidente de la région, était en visite en Lozère pour aller à l'espace du rucher des Tilleuls au Bourg-sur-Colane. Les précisions de Ludovic Terol de 48FM. Connaissez-vous le Zero Waste France? Non? Eh bien, François Charbonnel nous le fera découvrir. Et puis, rencontre avec la directrice marketing Elisabeth Pérez du Grand Valira, cette grande station en Andorre, la plus grande station de ski du sud de l'Europe. Et cela se passe ici, chez nous, en région, dans les Pyrénées. Bienvenue, c'est le carnet de région en Occitanie.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Le jeudi 8 février dernier, Florine en classe de terminale et Marine en classe de seconde au lycée Théophile Roussel de Saint-Chély-d'Apcher ont organisé un débat sur le harcèlement scolaire après la diffusion du film 1 sur 54 au ciné-théâtre. Nathalie de Radio Margeride est allée à leur rencontre pour avoir leur impression sur la réalisation de ce projet.
Moqueries, insultes, violences physiques, c'est ce que vivent les élèves victimes de harcèlement scolaire, souvent très tôt dans la scolarité. Les enseignants en sont les premiers témoins. Les écoliers de la Lozère y sont particulièrement sensibilisés, avec par exemple l'école primaire de Banassac, qui a remporté le premier prix national pour l'affiche « Le harcèlement, ce n'est pas du cinéma » l'année dernière. La journée nationale contre le harcèlement scolaire est fixée le 9 novembre. Une sensibilisation mise en lumière aujourd'hui et qui s'organise en Lozère tout au long de l'année. Clips, vidéos, affiches, ateliers de discussion, autant d'actions que mettent en œuvre professeurs et parents d'élèves pour sensibiliser écoliers, collégiens et lycéens de l'Académie de Montpellier. À l'occasion de la diffusion au ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher jeudi dernier du film 1-54, Florine en classe de terminale et Marine en seconde au lycée Théophile Roussel, élue au conseil de la vie lycéenne, ont animé un débat sur ce thème. Retrouvons-les à notre micro.
Quel est votre rôle au niveau du conseil de la vie lycéenne?
Nous sommes comme en fait les porte-parole des élèves du lycée en fait. On est 5 avec 5 suppléants. Si vous voulez, on se réunit 3 fois dans l'année, une fois par trimestre en fait. Ça nous permet justement de faire un point avec le proviseur du lycée et les CPE qui nous permettent justement de nous exprimer. On a un ordre du jour avec des points très précis pour être sûr de rien oublier. Et ça nous permet aussi justement de nous exprimer pour les élèves du lycée. Si vous voulez, il y a un temps où justement on va traiter point par point. Et puis après, on a vraiment des questions ouvertes, on a le droit de s'exprimer tour à tour. C'est vraiment une réunion où on peut s'exprimer, on échange.
Ce soir, vous êtes là pour parler du harcèlement scolaire. Il va y avoir un film et un débat. Vous, comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce que vous ressentez cet harcèlement scolaire?
Donc cet engagement nous a été proposé par notre CPE. Et j'ai voulu m'y engager tout simplement parce que je trouve que c'est une thématique qui est très importante à traiter dans un établissement. C'est très important parce que ça a des répercussions, ça a une incidence sur notre vie. Et je pense que c'est un thème qu'il ne faut pas oublier tout simplement.
Ben moi, je m'y suis intéressée parce que pour moi le harcèlement c'est une forme de souffrance. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous en fait. Donc en parler, c'est tout simplement important. Il y a beaucoup de gens qui oublient malheureusement.
Comment vous allez l'aborder ce soir? Vous avez un petit schéma de présentation toutes les deux? Comment vous allez intervenir devant les spectateurs?
Alors notre rôle en fait c'est plus de guider le débat, d'essayer de faire émerger en eux justement des idées, peut-être de les pousser à s'interroger sur cette thématique tout simplement parce que c'est important. On a prévu oui peut-être de les orienter sur des grands axes tout simplement, comment voyez-vous le harcèlement? Surtout, nous avons pensé justement que la place du harceleur passif est très importante et souvent oubliée. Et on a décidé vraiment d'accentuer ce côté-là, parce que c'est très important.
Bah, en fait, un témoin passif, c'est une personne qui est présente lors de l'harcèlement et qui regarde sans réagir ou pousser, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais...
Qui va participer à ce débat?
moi, Florine et la psychologue, et surtout bah, le public aussi. La psychologue, elle va déjà commencer à instaurer, un petit peu bouger les gens à participer, parce que le but, c'est pas que nous, on parle sur une scène. Il faut vraiment que le public... Voilà, c'est pour ça que la psychologue, elle compte nous aider. Puis il y a forcément des questions, ou peut-être des questions à laquelle nous, on pourrait pas répondre en tant qu'élève.
C'est surtout qu'on aura le point de vue à travers Marine, d'une élève de seconde, moi-même qui représente les terminales. Et le but surtout de la présence de Madame Lefebvre, qui est psychologue, c'est de donner un avis professionnel, justement, des arguments, peut-être des éléments qui sont beaucoup plus techniques que nous ne connaissons pas, tout simplement.
Le thème du harcèlement scolaire, comment il est traité au niveau du lycée Théophile Roussel ?
Déjà, on a plusieurs options aussi qui permettent d'aborder le harcèlement. Il y a le cinéma audiovisuel. On a fait un film sur le harcèlement, enfin un court-métrage. Donc il l'aborde de cette manière-là, par des options, et du coup, c'est un exercice et on est content de le faire. Il le pose de manière positive.
Oui, je rejoins ce que dit Marine. Moi, je pense que c'est vrai que parfois le harcèlement peut être pris et vu pour nous comme un sujet tabou. Et c'est vrai qu'une intervention peut-être de 2 heures pourrait sembler, de mon point de vue, peut-être assez rébarbative ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que de nous faire justement jouer, avoir un rôle dans une activité qui porte le harcèlement est beaucoup plus parlante pour nous. Parce que justement, on va essayer de comprendre, on participe à l'activité, et c'est, je pense, beaucoup mieux.
C'est un sujet qu'on ne traite pas assez.
Vous l'avez donc compris, dans notre département, on a pris le problème à bras-le-corps. Et pour cause, en France, le harcèlement scolaire touche 12% des élèves d'école primaire contre 10% des collégiens. Le prix Non au harcèlement permet chaque année aux élèves de toute la France, âgés de 8 à 18 ans, de créer des affiches et des vidéos. Le but ? Les sensibiliser au phénomène, comprendre comment il se déploie, ses conséquences et les impliquer personnellement.
C'était un sujet de Radio Margeride. Pour la 3e année consécutive, la sous-préfecture d'Alès organise le 12 mars prochain une soirée consacrée aux associations travaillant dans le cadre de la politique de la ville. Cette soirée, intitulée Quartier en lumière, mettra à l'honneur sur la scène du théâtre d'Alès, le Cratère, de nombreux acteurs associatifs œuvrant dans les quartiers prioritaires des villes de Saint-Ambroise, de la Grande Combe ou encore d'Anduze ainsi que d'Alès. Cette initiative est née de la volonté du sous-préfet de l'arrondissement d'Alès, Olivier Delquerou, une initiative qui montre l'engagement des acteurs de la politique de la ville, laquelle est financée par l'État et les collectivités territoriales. Cette année, c'est la jeunesse qui sera mise en lumière avec une douzaine d'actions traitant des questions d'emploi, de lutte contre les discriminations, de culture ou même bien de sport. Des actions présentées par l'entremise de témoignages, tables rondes, films et moments artistiques, comme l'a expliqué Olivier Delcarou lors d'un premier point presse.
L'objectif, c'est une fois dans l'année de mettre en lumière le formidable travail qui est fait tout au long de l'année par des acteurs associatifs, par des bénévoles, par des institutions aussi parfois, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, que ce soit à la Grande Combe, à Anduze, à Saint-Ambroise ou à Alès. C'est de dire qu'on a des acteurs associatifs, nombreux effectivement, donc les choix sont difficiles, mais qui travaillent toute l'année, 365 jours par an, auprès des populations, des jeunes, des moins jeunes, peu importe, mais qui sont là au quotidien et qui jouent un rôle formidable de cohésion sociale sur ces quartiers. Et donc cette soirée, c'est tout simplement le temps d'une soirée, dans un lieu emblématique, dans un lieu prestigieux, le Cratère, de pouvoir les mettre à l'honneur, faire connaître aussi leur action, les mettre en lumière, et en même temps, parfois aussi, on l'a vu sur les éditions précédentes, qu'ils se rencontrent et qu'ils montent des projets ensemble. On a eu, par exemple, en 2017, beaucoup de projets qui sont nés à l'issue de Quartier en Lumière, deuxième édition. Il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est aussi le chemin pour y parvenir, et donc le fait de pouvoir compter, mais aussi s'appuyer sur des acteurs associatifs qui vont monter la soirée pour les associations, c'est un atout très important. Et donc là, on a l'appui de beaucoup d'acteurs associatifs, l'École de la Deuxième Chance, Culture et Ambition, la SEGA, chacun dans son rôle, Mille et Une Mémoires, le lycée Pasteur, j'en oublie sûrement, mais beaucoup de partenaires associatifs qui sont à nos côtés pour construire une belle soirée le 12 mars prochain. Pour la 3e édition, on va innover un petit peu sur la thématique. Donc on a fait le choix de la jeunesse. Et donc l'idée, c'est de pouvoir présenter préférentiellement des actions qui sont portées par et pour les jeunes tout au long de l'année, dans tous les territoires de ce bassin alésien. Et donc ce sera la jeunesse, le thème de la 3e édition de Quartier en Lumière, sur tous les sujets, mais aussi la formation, l'emploi, qui sont des sujets importants pour les jeunes, la culture, les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes. On a souhaité pour 2018 l'ouvrir aussi au grand public. Et donc il y aura une part des places du cratère qui seront réservées pour le grand public. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues les années précédentes en nous disant « Est-ce qu'on peut y participer ?» Et comme on était dans une logique associative, on leur a dit « Ben non, c'est pas possible. » Cette année, on va essayer d'ouvrir un petit peu pour aussi que le grand public appréhende mieux évidemment ces acteurs associatifs et finalement que les mélanges se fassent.
Je me suis laissé dire que l'idée alésienne de Quartier en Lumière fait des petits et donne des idées à d'autres villes.
Je le souhaite en tous les cas, parce que, encore une fois, l'expérience est plutôt réussie, elle a donné satisfaction à beaucoup de monde. Et donc, si on peut évidemment essaimer, comme on dit, et faire en sorte que d'autres villes, pas très loin d'ici, puissent en bénéficier et bénéficier de l'expérience, ça sera avec plaisir qu'on fera un quartier en lumière franchisé partout.
Cette initiative réussie de la sous-préfecture d'Alès a d'ores et déjà donné des idées à d'autres collectivités qui voient d'un bon œil l'intérêt de reprendre cette réflexion de mise en valeur et en lumière des acteurs de la politique et de la ville. Un entretien réalisé par Yves de Fago pour Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Carole Delga, la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, était en Lozère la semaine dernière pour y visiter un endroit et pas n'importe quel, le rucher des Tilleuls de Bourg-Saint-Colagne. Le rucher des Tilleuls est un ancien hôtel qui a été aménagé en hôtel d'entreprise sous la forme d'open space avec un horloger, des ambulanciers, même des architectes, artisans d'art, infographistes regroupés en un même milieu. Et c'est peut-être une piste de travail pour les territoires ruraux, à l'image des maisons médicales, mais pour le secteur de l'économie, on écoute Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, au micro de Ludovic Terrol de 48FM.
C'est le type d'initiative que la région soutient, encourage. Ici, la région a aidé à plus de 123 000 euros, parce que ce que nous souhaitons, c'est que dans l'ensemble de nos villages, il puisse y avoir de la création d'emplois. Et je trouve que le concept de l'hôtel d'entreprise, qui est souvent réservé aux agglomérations, c'est une très bonne chose, que cela puisse se développer dans des petits villages, et surtout que cela redonne vie. Et cela restructure en fait un village, parce qu'on a vu qu'à travers l'école qui avait été réinstallée, à travers cet hôtel d'entreprise, ce rucher, puisque nous sommes dans l'ancien hôtel des Tilleuls, ce rucher, eh bien, il a permis à un développement d'activités, mais aussi à une implantation de nouvelles activités économiques, que ce soit dans l'horlogerie, ou comme dans l'artisanat d'art, ou dans des métiers entre guillemets plus classiques comme les ambulances, ou les architectes, ou tout ce qui est travaux d'imprimerie. Donc c'est le genre d'initiative qu'à travers ma visite, je veux mettre en avant pour donner des idées à d'autres communes, qu'en fait, il n'y a pas de fatalité, il faut être inventif, et que la ruralité, c'est bien aussi l'innovation territoriale. La région Occitanie, c'est la région de l'innovation. L'innovation, bien sûr, technologique, à travers l'aéronautique et le spatial. C'est l'innovation aussi à travers les énergies renouvelables, puisqu'on a l'ambition d'être la première région à énergie positive d'Europe. Mais c'est aussi l'innovation dans les territoires. Les territoires ruraux, ils sont capables de développer de nouvelles solidarités et d'avoir un nouvel essor. Ici, en Lozère, c'est un très bel exemple. C'est une des solutions, en effet, d'avenir pour le milieu rural, parce que nous savons que souvent, nos jeunes chefs d'entreprise ont envie d'avoir une qualité de vie, mais pour autant n'ont pas envie d'être isolés. Et donc, d'avoir des lieux de coopération collective en milieu rural, cela permet de concilier un environnement exceptionnel. En Lozère, l'environnement est sauvage, mais d'avoir aussi le plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir partager des projets, de pouvoir parler aussi de certaines problématiques. Donc c'est vraiment le collectif au service d'un village et au service d'une activité économique qui est non délocalisable.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.
Connaissez-vous Zero Waste France, une association qui prône la vie sans déchets, en tout cas en produisant le minimum? Mais alors comment faire pour réduire ses poubelles? Les réponses de Charlotte Ricot, qui est membre active de l'association Montpellier Zéro Déchet, au micro de François Charbonnel.
Par exemple, on va pouvoir diminuer les déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain en faisant par exemple ses courses en vrac. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ses pâtes au supermarché qui sont emballées dans des sachets plastiques, on va plutôt s'organiser un peu plus en amont, prévoir ses sacs à vrac avant d'aller faire les courses ou ses boîtes en carton, ce qu'on veut. Ensuite, se rendre dans une épicerie vrac et remplir ses contenants. Et ensuite, quand ils sont vides, repartir faire la même chose. Pour la salle de bain, par exemple, ça va être ne plus acheter de shampoing directement en bouteille, mais par exemple, acheter des shampoings qui sont solides, donc sans emballage, des choses comme ça.
Et où est-ce qu'on trouve, en fait, finalement, ces produits du quotidien? On les trouve dans des épiceries ou des magasins spécialisés?
Oui, nous, donc à Montpellier, on a vraiment de plus en plus d'épiceries vrac qui ouvrent. Donc, c'est vraiment de plus en plus facile. Après, même dans les grandes surfaces ou quand on va chez son boucher ou chez son fromager, on peut aussi amener ses propres contenants. Voilà, c'est de plus en plus accessible, quoi. Donc, voilà, les épiceries vrac, proposer à son fromager s'il peut mettre notre fromage dans la boîte hermétique qu'on a ramenée. Voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus. Quand on va prendre un café sur l'autoroute, demander à ce que la personne la mette directement dans notre verre, voilà.
Est-ce qu'au quotidien, finalement, ça coûte plus cher?
Dans mon cas, je m'y retrouve vraiment financièrement à avoir ce mode de vie-là. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que, par exemple, si on va en grande surface, je sais pas, acheter quelque chose au rayon des pâtes et on voit qu'il y a un autre type... d'aliments qui nous intéressent, pour le goûter, en fait, on va se dire, bon, faut acheter forcément 500 grammes, et que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, en l'occurrence, si ça nous plaît pas, et il va nous rester sous les bras, ce sachet de 500 grammes, et donc, pendant des mois et des mois, il va y rester 300, 400 grammes qui vont rester dans le sachet. Là, ce qui est hyper intéressant quand on va dans des boutiques en vrac, c'est que, du coup, on peut tester. Moi, j'ai déjà acheté juste une portion de nouveau type de riz dans l'épicerie vrac pour voir si elle me plaisait. Et du coup, si elle me plaît, je peux reprendre la même. Et si elle me plaît pas, voilà, j'ai juste utilisé ma portion. C'est bien plus pratique. Et après, ça fait aussi gagner énormément de temps. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant de ce côté-là.
C'était Charlotte Ricot, membre de l'association Montpellier Zéro Déchet, joint par téléphone par François Charbonnel de RCF Maglonero. Tout de suite, entretien avec la directrice marketing du Grand Valira dans les Pyrénées-Orientales, plus grande station des Pyrénées située dans la principauté d'Andorre.
Elisabeth Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing du Grand Valira, cette grande station. Alors pouvez-vous nous situer un petit peu le cadre où nous sommes actuellement?
Bon, nous sommes maintenant au secteur de Grau Roig, dans le domaine skiable de Grand Valira. Grand Valira, c'est un domaine skiable avec 210 km de piste. Et actuellement, c'est le domaine le plus grand du sud de l'Europe.
Pouvez-vous nous présenter ce domaine skiable, combien de remontées mécaniques, qu'est-ce qu'il y a à faire?
Bon, c'est un domaine qui est né en 2003, après l'union de deux grandes stations. D'après ça, ça fait déjà 15 ans de la création de Grand Valira et beaucoup des investissements se sont réalisés depuis la création. Plus de 140 millions d'investissements dans les remontées mécaniques, dans les restaurants. On a fait une remodélation de presque tous les restaurants de la station. On a plus de 60 points de restauration. L'école de ski s'est professionnalisée beaucoup et on a des différentes disciplines, de l'ski de montagne, du freeride. On a un service premium pour les clients qui veulent un peu plus de service. Et on a des activités pour les petits-enfants, des circuits infantiles, on a beaucoup, beaucoup de choses, des activités d'aventure, de la presqu'île et un igloo hôtel. C'est un domaine pour tout le monde. Il y a des choses à faire pour les gens qui skient, bien sûr, mais il y a aussi des activités et beaucoup de choses à faire pour les gens qui ne skient pas. Alors, comme je vous avais dit, on a un igloo hôtel qui s'est fait entièrement en neige. Et les gens qui veulent peuvent vivre une expérience totalement esquimale ici à Grand Valira, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est quelque chose de très très sympa à faire.
Alors, quelle sorte de clientèle vient ici à cette station, Elisabeth?
Bon, on a beaucoup de clientèle internationale. Presque le 50% de nos clients sont des marchés internationaux. On a des gens, bien sûr, du marché français, mais aussi on a des Portugais, des clients anglais. On a des gens qui viennent de marchés du nord de l'Europe, mais aussi on a des Brésiliens. On a des marchés plus de
plus lointain,
exactement. Okay.
Alors pour attirer justement cette clientèle, peut-être une nouvelle, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux?
Bon, on a fait un grand effort, l'équipe, depuis quelques années. Moi, je travaille ici depuis quelques années, mais c'est vrai qu'on est très actifs dans les réseaux sociaux. On est dans le top 7 au niveau mondial. Et on essaye d'être très, très, très active avec nos clients. Tous les commentaires, toutes les questions qu'ils nous posent, on essaye de les répondre toutes. C'est la meilleure façon de connecter avec nos clients, d'être proche et qu'ils sentent qu'on les écoute et qu'on parle la même langue.
D'accord, ok. Combien de personnes travaillent sur ce domaine, Elisabeth Pias?
On travaille ici 1500 personnes. Dans la saison d'hiver, après, ça dépend dans les différentes stations. Il y a une base d'équipe qui reste d'à peu près 200 personnes, mais en pleine saison, on est 1500.
Ouais, et tout au long de la saison d'hiver, par exemple, combien de personnes viennent ici? Est-ce qu'on a des chiffres aussi? C'est pareil, c'est affolant.
Ben oui, bien sûr. Bon, d'abord, il faut savoir que dans le pays, on est 70 000 habitants. Et ici, à Grand Valira, dans la saison dernière, par exemple, on a eu 1,7 million de visiteurs. Alors, c'est quelque chose pour comparer.
C'est déjà la fin de ce carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes et à tous également de le suivre chaque semaine, régulièrement. Merci aux radios qui ont été contributrices de ces nombreux sujets que vous avez pu suivre et écouter. Prochain retour du carnet de région, c'est bien sûr dès la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Prenez soin de vous.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.